Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. En Italie, Matteo Salvini, qui pensait prendre le pouvoir comme un fruit mûr, doit finalement patienter. En Autriche, le FPE d'extrême droite a payé cher dans les urnes les compromissions de son ancien dirigeant dans l'Ibiza Gate. Au Portugal, cela n'a même pas été un sujet lors des dernières législatives. En Allemagne, l'AFD pousse à l'Est mais ne parvient pas à prendre la première place dans les scrutins qu'elle vise. Hier en Pologne, les conservateurs du PiS ont certes conservé la majorité, mais en Hongrie, le parti de Viktor Orban a perdu la mairie de Budapest. Les populismes et les extrêmes qui avaient le vent en poupe semblent désormais résistibles. Au moins, sont-ils en reflux ? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Béatrice Giblin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, directrice et fondatrice avec Yves Lacoste de la revue de géographie et de géopolitique Hérodote. Et Jacques Lévy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe également, professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et à l'Université de Reims, co-auteur avec Sylvain Kahn de Le Pays des Européens aux éditions Odile Jacob. Comme je le disais, les élections législatives en Pologne nous ont donné hier un contre-exemple, mais les conservateurs du PiS n'ont pas non plus renforcer leur position. On pourra y revenir plus en détail si vous le souhaitez. Mais est-ce que les populismes et les extrêmes européens ont atteint une sorte de plafond de verre ? Béatrice Giblin.
Je ne prendrai pas le risque de dire qu'ils ont atteint le plafond de verre, parce que tout dépend des contextes dans lesquels les situations peuvent évoluer. Ce qui est sûr, c'est que les situations dans ces différents États que vous avez cités sont loin d'être identiques. Donc, il y a sans doute des ressorts commun et on pourra y revenir. Il y a un des ressorts auxquels moi j'accorde de l'importance, c'est celui d'une réaction de fierté nationale, le sentiment d'avoir été méprisé vraiment par les occidentaux dominants, France, Allemagne, dans le cadre de l'Europe, qu'une grande partie de la population a payé très cher cette transition démocratique, et ayant le sentiment que s'il y a une élite urbaine bien formée, très européenne, polyglotte, qui s'adapte très bien. Pour eux, la note a été quand même très très salée. Et à partir du moment où des partis leur disent ben, « on vous a compris, vous pouvez être fiers de votre nation, vous avez le droit d'être fiers d'être polonais, fiers d'être hongrois, c'est important pour vous », sur des pays qui ont peu connu d'indépendance nationale dans ces, on va dire, dernières années. Et puis alors la Pologne, encore plus, puisque toute son histoire s'est rayée de la carte, recréée, dominée.
De l'Est à l'Ouest.
Voilà.
Enfin,
voilà. Bon. Du coup, il y a un écho, si vous voulez, à ce discours-là, qui fait qu'un discours identitaire, qui en plus s'accompagne, dans le cas en tout cas de la Pologne, d'une amélioration économique incontestable et d'avantages sociaux incontestables pour la population. Alors, vous savez, que la presse soit sous le boisseau, que les juges perdent leur indépendance, j'ai sans doute choqué un certain nombre de vos auditeurs, mais pour beaucoup de gens, bon, bah, c'est des affaires qui les concernent en fond. Pas directement, même si je pense qu'ils ont tort, bien évidemment. Mais c'est comme ça que je vois les choses pour le moment. Mais il y a aussi, il faut le dire, et c'est là où votre question est intéressante, des réactions. Bien évidemment, je pense à l'Allemagne quand je vous dis ça, mais pas seulement. On a une coalition totalement hétéroclite en Hongrie, puisque ça va de l'extrême droite avec le Jobbik jusqu'à le centre-gauche ou une gauche démocratique, pour faire un front uni pour pouvoir battre Orban. Donc on peut pas être tout à fait sûr que cette grande coalition va tenir le choc à la moindre grande difficulté. Ça ne va pas fonctionner.
Jacques Lévy, est-ce que ces populismes créent leur propre position quelque part, est-ce qu'ils sont résistibles?
Oui, clairement ils sont résistibles, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont atteint leur sommet, mais ce qui est vrai aussi, c'est que il y a une fragilité du populisme dans l'espace politique européen, du fait que ce sont des nationalismes et que du coup, ils ont du mal aussi à converger les uns avec les autres.
Ils ont chacun leur chemin propre,
avec
en fait.
Avec quand même l'idée que les autres pays sont moins bien que le leur. Donc, c'est difficile de construire des coalitions, comme on le voit au Parlement européen, où ils n'ont pas réussi à s'entendre, malgré une réelle progression par rapport à l'élection précédente. Et il y a aussi le fait que, comme le disait Béatrice Giblin, il y a des oppositions, c'est-à-dire qu'ils ne règnent pas du tout sans partage, même quand ils sont au pouvoir. Hein, si on regarde ce qui s'est passé en Pologne, il y a une géographie qui est très intéressante dans cette élection, qui reprend d'ailleurs celle des élections précédentes, c'est-à-dire que les grandes villes, en particulier Varsovie, ont voté majoritairement pour les deux grandes coalitions qui sont pro-européennes et hostiles, disons, au nationalisme, à 60% à Varsovie, par exemple, et aussi dans cet arc qui correspond à la partie de la Pologne qui n'était pas polonaise jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui va de Gdansk à Wrocław. Et là aussi, PiS n'a pas la majorité. Donc, au fond, ça ressemble à des situations qu'on retrouve aussi en Europe de l'Ouest, hein, ou
même en France, absolument. Même vote Macron, par exemple,
oui. Absolument. Et même, on pourrait dire, même sur les thèmes, si on prend les thèmes très marqués par le poids de l'Église catholique en Pologne, ça ressemble beaucoup au clivage qu'on a eu en Espagne dans les années 80 et 90. Et finalement, sur les sujets de de l'homosexualité, de la liberté des femmes. Si on se reporte quelques décennies en arrière pour la France, peut-être que avec l'Union européenne d'aujourd'hui, la France aurait des problèmes, aurait des menaces de sanctions, parce que c'est seulement depuis peu de temps finalement que la liberté des orientations sexuelles, même l'égalité homme-femme, ça fait pas très longtemps qu'elle existe dans la loi en France. Donc il faut pas exagérer les différences, même si Béatrice Gibelin a tout à fait raison aussi de dire que c'est pas tout à fait la même temporalité, c'est-à-dire que les pays du groupe de Visegrad, Hongrie, les quatre, c'est des pays qui finalement ont été privés de leur phase d'affirmation nationale par le fait que dans la période récente, elles ont été sous le joug d'un empire.
Un autre élément, c'est qu'il s'agit en fait de pays qui sont, mis à part la Pologne qui a 38 millions d'habitants, qui a un grand territoire, c'est quand même des petits territoires, des petits pays, c'est des petites nations. Et c'est presque infamant d'être considéré comme une petite nation. Donc ils veulent être reconnus, en particulier je pense à la Hongrie, qui jusqu'au traité de Trianon était un grand territoire avec une grande population. Le traité de Trianon, c'est une catastrophe. Et c'est toujours vécu comme une catastrophe. On perd deux tiers de la population, deux tiers du territoire. C'est colossal.
On a l'impression d'être rendu à l'état d'état croupion. Quoi,
voilà, à la limite. Donc, on y est particulièrement sensible. Et du coup, ces partis sont aussi des partis qui réécrivent une histoire, d'une grande histoire, d'un grand roman national, où on cherche ce qui va vous rendre grand et puissant. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui, dans ces populistes, est très important. Et sur l'idée, je finis juste là-dessus, de quelque chose qui est avant. C'est-à-dire que réintégrer l'Europe, pour eux, c'était réintégrer l'Europe d'avant la période du communisme et sans doute même d'avant la Première Guerre mondiale.
Du congrès de Vienne, quoi, quelque part.
Alors, oui, enfin, peut-être pas jusque-là, mais alors que pour, en tout cas, de la grande période de l'Empire austro-hongrois, par exemple, dans ce cadre-là, ou pour le royaume polonais-lituanien, qui est aussi un des grands moments. La Pologne, c'est presque plus ambigu, parce qu'elle tient le discours de la résistance sous le nazisme.
Mais là, on touche justement quelque chose qui est commun au populisme, c'est-à-dire de se référer à une époque du passé,
un âge d'or qui peut
se situer, Béatrice Gibelin vient de le dire, à différentes époques. Mais qu'est-ce que c'est que le Brexit? C'est aussi le fait de dire, avant l'Union européenne, ça allait mieux, tout le monde avait de l'emploi. Nous étions un empire avant la Deuxième Guerre mondiale, mais d'incriminer l'Union européenne pour la politique de Margaret Thatcher. Donc, des choses assez étranges, mais qui sont recomposées. Et même en France, finalement, c'est la nostalgie de la grandeur. C'est quand même un élément qui a joué un rôle et qui sans doute continue de jouer un rôle dans la vie politique française. Donc c'est pas propre à cette Europe de l'Est. Et par ailleurs, il y a une espèce de remise au même niveau, c'est-à-dire que tous ces gens-là quand même discutent maintenant aussi de la même chose. Et du coup, la question de l'Union européenne, elle joue un rôle très important aujourd'hui dans la vie politique. On s'est aligné sur ces questions-là en France avec l'opposition Macron-Le Pen, mais finalement, en Pologne, en Hongrie et aussi dans beaucoup d'autres pays, en Roumanie, en Bulgarie, c'est ça qui fait la ligne principale de clivage.
C'est la fracture entre pays ouverts et pays
peut-être un peu plus retour sur lui-même. Il y a une donnée qu'il faut prendre en compte. Là, on vient de faire un numéro qui s'appelle Migration et Nations, et il y a une donnée moi qui me semble très importante.
La revue Hérodote.
Oui, voilà. C'est celle de la croissance démographique. Or, ce sont des pays qui sont en très grande faiblesse démographique, tant parce que c'est des taux de natalité qui se sont effondrés et qui sont vraiment extrêmement faibles, effondrés depuis longtemps, ils sont pas effondrés seulement depuis la chute du
communisme.
Oui, voilà. D'une part, et par ailleurs, c'est une immigration massive, mais vraiment importante, de l'élite, c'est-à-dire de ce qui est jeune et formé et qui évidemment est attiré par des sociétés différentes. Mais ça se chiffre en centaines de milliers de gens,
notamment en Pologne.
Donc notamment en Pologne, mais c'est vrai de la Hongrie. C'est tout aussi vrai de l'Hongrie et c'est très vrai aussi de la Bulgarie. Donc perdre son élite, si vous voulez, la jeunesse de son élite, elle va manquer à certains moments. Donc ils ont le sentiment d'être trahis à plusieurs d'un titre parce que cette jeunesse qu'on a formée, elle s'en va chez les autres. Et donc c'est toute cette politique nataliste d'Orban, mais aussi l'opposition à l'avortement en Pologne.
Et c'est aussi pour ça que le PiS a promis l'exemption fiscale pour les moins de 26 ans au cours de cette élection.
Oui,
Jacques Lévy.
C'est parce qu'en fait, dans ces pays, je distinguerai les pays des Balkans qui, eux, voient partir beaucoup de monde, mais sans que ces départs soient remplacés par des arrivées, alors que en Pologne, par exemple, il y a une très forte immigration ukrainienne. Donc, en fait, c'est une espèce de jeu de dominos.
De transvasement.
Oui, de transvasement, c'est-à-dire qu'en fait, les emplois les moins bien payés sont beaucoup occupés par des gens qui viennent de plus à l'est, et j'étais en Ukraine cet été, et c'était frappant de voir dans beaucoup d'endroits des affiches qui disaient aller dans l'Union européenne, ça voulait dire beaucoup la Pologne, éventuellement l'Allemagne, et vous aurez des salaires jusqu'à 2000 euros par mois.
J'aimerais juste revenir sur le poids des populistes dans chacun de ces pays. Est-ce que je parlais d'un éventuel reflux, on va peut-être y revenir. Est-ce que au contraire il y a une tendance justement à la stabilisation, donc à l'installation dans le paysage politique? Est-ce que c'est l'alternance, c'est les populistes ou les européistes?
Pour le moment, on n'a pas encore l'alternance. On va peut-être y venir, mais pour le moment, on ne l'a pas encore. Donc, qu'ils soient installés dans la durée, c'est pour moi, c'est indéniable. Ça ne va pas s'effacer. Alors, on aura peut-être l'alternance si on a une opposition qui est moins divisée que ce qu'elle a été jusqu'alors, parce que c'est vrai en Hongrie, c'est vrai en Pologne. Cette situation-là fragilise, si vous voulez, indéniablement. Il faudrait aussi, si vous voulez, qu'on arrive à des situations où, par exemple, la croissance économique très forte de la Pologne se ralentisse et qu'on puisse pas arroser, si j'ose dire, autant qu'on l'annonce. Auquel cas, il pourrait y avoir un retour de bâton, mais qui ne sera pas, à mon avis, extrêmement fort et massif.
Je voudrais justement rebondir là-dessus, Jacques Lévy, sur ce que a dit par deux fois Béatrice Gibelin. La Pologne, donc le PiS, a gagné les élections hier, et justement, le pays qui a une bonne situation économique, les déficits sont maîtrisés, la croissance est au plus haut, le chômage est au plus bas. Est-ce que les difficultés relatives dans d'autres pays des partis populistes et extrémistes, ça s'explique aussi par les difficultés économiques?
On peut toujours dire ça, mais justement, les exemples d'Europe de l'Est prouvent que c'est pas si simple, puisque justement, globalement, l'Europe de l'Est a énormément profité de son intégration dans l'Union européenne, et donc particulièrement ces quatre pays de Visegrad, aussi les pays baltes, mais même ceux qui sont partis de plus bas, ils progressent très vite, donc pour eux, on peut clairement pas dire que c'est l'explication, et Par ailleurs, en Europe de l'Ouest, c'est un peu plus compliqué. Il y a plein de travaux de politistes qui montrent que c'est le sentiment d'être perdant qui est très important. Donc le sentiment d'être perdant, ça ne veut pas dire qu'il est totalement irrationnel, mais c'est pas forcément une perte directe. C'est pas forcément ceux qui sont les plus perdants qui sont les plus hostiles, par exemple, à l'Union européenne ou à la mondialisation. On le voit bien en France, où il y a clairement deux types de couches populaires qui ne votent pas du tout de la même façon, hein, et le fait que les gilets jaunes n'aient pas du tout fait leur jonction avec les banlieues populaires, ça nous montre que justement, c'est pas une vision mécaniste en termes de niveau de revenus ne nous permet pas de comprendre la complexité des attitudes politiques.
Béatrice Gibelin, un mot là-dessus
Oui, moi je pense que...
Sur cette fracture qui traverse en fait tous les pays, quoi.
Oui, cette fracture, elle traverse tous les pays. Il y a le sentiment néanmoins, qui est je crois commun à tous, dans là où on a des partis populistes importants, c'est que l'immigration était un facteur quand même, soit déclencheur, soit au contraire de carburant pour alimenter ces populismes. Donc ça a été un élément important. Avec un deuxième élément qui est effectivement sur une composante identitaire, j'aime pas trop parce que pour moi l'identité est quelque chose de complexe, de pluriel, et on n'a pas une identité.
Ça, c'est difficile à définir,
mais
effectivement.
Voilà, et qu'on a plusieurs identités à l'intérieur de soi. Mais néanmoins, par exemple, c'est l'idée qu'on défend des vraies valeurs. Les vraies valeurs d'une Europe chrétienne, avec sa culture. Regardez le débat qu'il y a eu.
Sur l'intitulé du portefeuille de défense de la culture, du mode de vie européen.
Voilà, du mode de vie européen. Ce qui pourrait parfaitement se concevoir, oui. Et qui pourrait ne pas susciter autant de réaction. Mais ça montre bien une sensibilité très très forte. Et pour une partie des adhérents aux idées du populisme, c'est l'idée qu'eux défendent des vraies valeurs et de ce qu'est la vraie Europe. Mmh. Ce qui est effectivement une fracture par rapport à un autre versant qui est l'ouverture, le respect des minorités, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit de genre, qu'importe, enfin, mais respect des droits de l'homme, etc. Et ce clivage-là, alors là, à mon sens, il traverse toute l'Europe des 28, 27 peut-être dans quelques temps, mais encore c'est pas sûr. Voilà, ça me semble vraiment quelque chose qui est important et qui nécessite de débattre avec cette opposition que je rappelle, comme Jacques Lévy, l'importance entre les villes, les grandes villes et le reste. On est quand même sur des sociétés qui fonctionnent avec des représentations assez différentes.
Ça a remplacé le clivage gauche-droite, vous diriez ça, Jacques Lévy ?
C'est pas exactement ça. C'est-à-dire que le clivage gauche-droite, il a aussi été remplacé par d'autres clivages de nature idéologique abstraite. Mais effectivement, ces nouveaux clivages résonnent très très bien avec des découpages géographiques qui sont nouveaux, effectivement, où le monde des villes, qui est lui-même beaucoup plus mondialisé, beaucoup plus ouvert sur d'autres échelles, n'a pas ce problème de monoscalaire, hein, j'utilise un gros mot, c'est-à-dire le point commun des populistes, c'est que pour eux, il y a une échelle qui est beaucoup plus importante que les autres, qui écrase toutes les autres, c'est l'échelle nationale. Mmh. Alors que pour les autres, l'idée qu'on puisse avoir plusieurs identités, y compris nationales, mais pas seulement, passe beaucoup mieux. Donc d'où la contradiction aussi du fait, un autre trait commun aux populistes, c'est que ils ont un discours anti-européen, mais aucun ne veut sortir de l'Europe, en Europe de l'Est parce que ils y gagnent beaucoup, mais même en Europe de l'Ouest parce que par exemple
le contre-exemple
les Européens
du Brexit, par
sont
exemple.
Très attachés à l'euro.
Oui, aujourd'hui. Non, mais le Brexit, d'abord l'Angleterre, le Royaume-Uni, mais l'Angleterre particulièrement n'avait jamais véritablement adhéré à l'Europe. Il faut bien le dire, et c'était toujours sur une attitude très réticente. Et puis on les a quand même bien trompés dans cette affaire-là.
Merci, Béatrice Gibelin. Merci Jacques Lévy d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vanner. Clin d'œil à Zigrid également. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.